Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean Roulet.
Bonjour. Page feuilletée, l'agenda littéraire de Canal Académie. Lors d'une émission précédente, nous avions quitté Georges Charpak au seuil d'une voie royale. Il venait d'être remarqué par le physicien américain Léon Lederman et allait le suivre au CERN de Genève, centre européen de recherche nucléaire. Mission : percer les secrets d'une mystérieuse particule nommée le muon. C'était à la fin des années 50. Nouvellement créé, le CERN affichait une ambition européenne, rejoindre les Américains et les Russes dans le domaine de la physique subatomique. Le CERN attirait déjà une élite internationale. Georges Charpak se doutait-il qu'il allait en devenir l'un des prix Nobel. Pour mieux situer la carrière de Georges Charpak, replaçons-la dans l'histoire de cette nouvelle physique. Revenons à la fin du 19e siècle. La fée électricité vient de naître, son berceau, un tube cathodique contenant du gaz raréfié. Soumis à un fort potentiel, le gaz devient conducteur et s'illumine. De ce qui était encore à l'époque le plus petit grain de matière, l'atome, les physiciens viennent d'extraire le plus petit grain d'électricité, l'électron. La course aux particules est lancée. Un siècle plus tard, elle aboutira à une modélisation de la matière, modestement nommée le modèle standard, mais qui est une étonnante construction de la science. Le parcours ne sera pas simple. Il va mobiliser le génie mathématique et un prodigieux développement des outils expérimentaux. Il a d'abord fallu doter l'atome d'une structure, un noyau électriquement positif, compensé par un nuage d'électrons négatifs. Ça peut évoquer le système solaire, mais c'est beaucoup plus complexe. La gravitation n'a plus le droit de cité tant elle est négligeable à si petite échelle. Il a donc fallu imaginer d'autres forces pour concevoir ce microcosme. La théorie des quantas s'en est emparée avec ses notions de discontinuité, de probabilité. Les physiciens sont venus à s'interroger sur le déterminisme, scientifiquement indispensable, mais difficile à saisir dans un monde d'incertitude. Dans un système classique, en effet, à un état du système correspondent certaines valeurs des variables d'état qui le définissent. Ce n'est plus tout à fait le cas dans la théorie des quantas. À un état du système ne correspondent que des probabilités de valeurs pour de telles variables. Autre raffinement, les vitesses mises en jeu imposent la théorie de la relativité avec ses paradoxes quant à la notion de temps. Si bien que pour modéliser de tels phénomènes, les physiciens ont dû introduire un arsenal mathématique tel que très vite, leur univers nous échappe. Nous n'osons même plus les questionner sur ce que nous aimerions comprendre. Eux-mêmes se sont parfois demandé s'ils ne dérivaient pas vers des fictions mathématiques. Par exemple, lorsqu'en 1928, le physicien Paul Dirac a vu surgir d'une équation la double solution d'un électron négatif, ce qui est normal, et d'un électron positif, véritable paradoxe à l'époque. Dirac venait pourtant de découvrir mathématiquement le positon, premier échantillon d'antimatière. Ce fut encore le cas, nous allons le voir, lorsque l'équilibre énergétique d'une interaction a induit l'hypothèse d'une particule jamais encore détectée, le neutrino. Voilà ce que nous comptent les mémoires de Charpak. Voilà les questions qu'elles abordent tout en nous épargnant le détour par les hautes mathématiques. Comment, par exemple, dans le noyau de l'atome, des particules restent soudées alors qu'elles devraient se repousser ? Comment, à jet continu, le cosmos nous bombarde de particules. Certaines, comme les protons, sont porteuses de hautes énergies. Elles entrent en collision avec les couches supérieures de l'atmosphère où elles se désintègrent en générant des cascades de particules secondaires. Les mémoires de Georges Charpak nous apprennent aussi comment les outils de détection ont pu devenir les yeux de la théorie. Principalement après que ce physicien leur a fait faire un bond technologique considérable qui lui vaudra le prix Nobel de physique en 1992. Du haut des montagnes ou à l'aide de ballons-sondes, les scientifiques s'étaient mis à l'affût des interactions qui se produisaient en altitude. Événements rares et fugitifs, nécessitant alors une masse de clichés pour tomber sur une observation intéressante. Avec les accélérateurs de particules, il devient possible, à partir des années 50, de reproduire dans des tunnels des conditions de hautes énergies et des collisions de particules avec des faisceaux de protons. Et c'est là, auprès de l'accélérateur du CERN, que nous retrouvons l'équipe de Lederman et Charpak aux prises avec l'étude des muons. La particule livre son secret, le muon n'est en fait qu'un sosie de l'électron, mais de masse supérieure, tout comme le sera la particule tau, découverte plus tard et encore plus massique. À partir de quoi une fructueuse synergie va s'opérer entre les accélérateurs de particules, générateurs d'interactions, et les chambres à fil de Charpak, capables de saisir au vol ces phénomènes et de les mémoriser. On continue de piller l'alphabet grec pour baptiser les nouvelles particules et les théoriciens avancent dans la modélisation du monde subatomique. Bref, on assiste à une synergie de plus en plus féconde entre l'expérimentation et la théorie. La notion d'antiparticule s'est généralisée. Entre particules et antiparticules, il y a un effet miroir qui inverse toutes les caractéristiques, sauf la masse, qui est forcément positive. Dans notre monde ordinaire, cette antimatière est vite effacée car elle forme avec la matière un couple étrange et fugace. La mise en présence d'une particule et d'une antiparticule font qu'elles s'annihilent et disparaissent simultanément. La masse est alors convertie en énergie. Cette énergie est emportée par des photons ou éventuellement par d'autres particules. Voilà bien le monde étrange dans lequel les mémoires de Charpak nous entraînent. Au moins aussi surprenant est le cas des neutrinos déjà évoqués. Ce sont des véritables particules fantômes. Pas de charge électrique, une stabilité parfaite, une masse tellement faible qu'on a longtemps cru qu'elle était nulle. Les neutrinos ne sont sensibles qu'à l'interaction faible, l'une des trois forces qui s'exercent à l'intérieur de l'atome. Autant de propriétés qui permettront par la suite de concevoir des télescopes à neutrinos. Ce qui est important de savoir et surtout de ne pas craindre, c'est qu'à chaque instant, à une vitesse proche de celle de la lumière, nous sommes arrosés par une pluie de neutrinos, une pluie abondante qui nous traverse, nous et notre planète, en toute transparence. Les neutrinos, ce sont les passe-murailles du ciel. Le plus étonnant est que cette particule à peine crédible a été imaginée en 1930 par le physicien Pauli pour équilibrer le résultat d'une interaction. Un peu d'énergie avait disparu dans le bilan du phénomène, ce qui pour un physicien est inconcevable. Pauli soupçonne alors une particule non encore détectée de l'avoir subtilisée. Cette particule n'était donc à l'origine qu'une hypothèse pour expliquer une disparition d'énergie. Elle sera théorisée et baptisée neutrino en 1933 par Fermi. Il faudra ensuite attendre un quart de siècle pour qu'elle soit validée expérimentalement. Le physicien François Vannucci, à qui Georges Charpak a prêté sa plume pour un chapitre, parce que dans ce monde on travaille volontiers en équipe, François Vannucci donc est un grand spécialiste des neutrinos. Il a fait de cette fameuse particule que rien n'arrête le héros d'une sorte de roman policier, préfacé par Georges Charpak, et intitulé « Les neutrinos vont-ils au paradis ?» Une fiction instructive qui nous fait pénétrer dans le monde de la recherche sous la dictature d'un grand patron, le professeur H., à ses mandarins et qui finira par se suicider tant les invisibles neutrinos lui en auront fait voir. Georges Charpak nous ramène à une réalité plus conviviale lorsqu'il évoque ses années de CERN. Il en parle avec enthousiasme. C'était la frénésie, nous dit-il, la passion de la recherche. Nous pouvions finir un travail jusqu'à 3 heures du matin autour de l'accélérateur, dormir sur des lits de camp, mais pour rien au monde, nous n'aurions raté les cours de physique théorique destinés aux expérimentateurs à 10 heures du matin. C'est au CERN, avec une équipe de techniciens, qu'il devait développer son fameux détecteur multifil qui a rendu obsolètes les autres outils de détection, comme les gigantesques chambres à bulles remplies d'hydrogène liquide qui coûtaient jusqu'à 100 millions de dollars, et aussi les chambres à étincelles dont le progrès était significatif mais insuffisant. En quelques années, les chambres de Charpak ont supplanté tous les autres outils de détection. Elles ont fait bénéficier d'un saut technologique important l'observation des particules élémentaires. Grâce à quoi, les théoriciens ont pu disposer d'un outil qui intégrait l'électronique, traitait l'information et qui finira même par laisser une trace tridimensionnelle des phénomènes observés. Ce qu'on imagine mal après coup, c'est l'ampleur des difficultés technologiques à surmonter pour en arriver là. Il faut que ça fonctionne et que ça tienne. C'est là un parcours semé d'embûches. On joue avec des lois physiques extrêmement pointues. Un phénomène parasite, un mauvais dosage du gaz, un paramètre mal réglé, le diamètre des fils, leur écartement, leur état de surface, un rien risque de tout faire échouer, voire d'entraîner la destruction de l'outil. Au passage, Georges Charpak souligne l'aide qu'une équipe pluridisciplinaire peut apporter pour faire fructifier une invention. La sienne a permis de mieux cerner le monde de l'atome, les forces et les phénomènes dont il est le siège, les nouveaux composants qu'on a pu y découvrir, ces particules que l'on dit un peu trop vite élémentaires en attendant de leur découvrir une structure. C'est l'intégration théorique de toutes ces découvertes qui constitue le fameux modèle standard, et c'est son accord avec les phénomènes observables ce jour qui le qualifie en tant que modèle. Est-ce à dire que cette cohérence a posé le point final des recherches sur la matière ? Non, sûrement pas. La fête n'est pas finie, comme disent les découvreurs de cette nouvelle science. Ils continuent par exemple de travailler sur une extension du modèle standard, une grande unification qui concernerait toutes les forces mises en jeu dans le monde subatomique. Ils évoquent aussi la recherche d'un graviton comme une sorte de Graal qui détiendrait les clés de la gravitation. Ils ne veulent pas que la fête soit finie et sont persuadés qu'elle ne l'est pas. Cet esprit festif baigne les mémoires de Georges Charpak. Nous leur consacrerons une troisième émission. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver bientôt sur l'antenne de Canal Académie.